Bienvenue dans le grand bain du Festival des Libertés Numériques.
Plongeons ensemble pour partir à la recherche d'un trésor.
Notre pouvoir d'agir collectivement pour préserver nos libertés et nos vies privées.
Un podcast signé Studio Dilettante.
C'est une présentation de deux membres d'Exidas Privacy. Qui est une association loi 1901 qui a été créée en 2017. Alors, je ne sais pas très bien comment prononcer vos pseudos. Il y a Metalpou,
c'est moi.
Metalpou, c'est ça. Voilà. Et puis Lovis.
Winov.
Je ne sais pas si tu veux un V ou un U. Ouais. Okay. Le roi des sauvegardes.
Voilà.
Donc, qui vont parler de tracker et de sur Android.
Voilà. Bon, en tout cas, on est ravis d'être parmi vous. Donc, en tout cas, merci à l'IMT Atlantique puis au Festival des Libertés Numériques d'avoir pensé à nous pour nous inviter pour cet après-midi. Alors, juste petit sondage à la main levée. Qui connaît Exodus Privacy?
Waouh. Bon, bah, allez, on s'en va.
Ouais, c'est pas mal. Donc, en tout cas, on est content aussi de pouvoir présenter notre travail à des gens qui ne connaissent pas forcément parce qu'on est une petite association. On va y revenir et c'est vrai que on a envie de partager ce qu'on fait, et donc le but d'aujourd'hui, ce sera de vous présenter donc qui on est, ce qu'on fait, et ce que sont nos résultats. Donc, qui nous sommes? Alors nous aussi, on a des présentations en anglais, c'est pour nous la péter, en fait.
Voilà, voilà. C'est pareil. Voilà. Fais comme les grands.
Voilà. on est un groupe de hacktivistes, donc français, puisque l'association a été créée avant tout par des Français, mais ça n'a pas forcément vocation à rester une association française. Donc on a créé l'association en octobre 2017, donc c'est une association qui est relativement récente. Nous ne sommes que des bénévoles. Donc moi j'ai pris un jour de congé pour venir vous voir.
Prends une demi-journée aussi.
Voilà. Et du coup, alors quand on dit un nombre indéfini de membres, en membres actifs, on est à peu près à 8.
Oui, allez.
Voilà. En gros.
Faut reconnaître que les prix de l'adhésion à l'association étant tellement prohibitifs à 0 euro qu'on a un nombre indéfini d'adhérents.
Donc un des buts aussi de notre présentation, c'est que si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et c'est pas vous le produit. Alors du coup, on a des règles strictes d'un point de vue légal, c'est-à-dire que nous, notre champ d'action, c'est de rendre visible tout ce qui concerne le pistage par le biais des applications sur téléphone portable et notamment des applications Android. On a un cadre légal hyper strict, on agit que dans le champ de la légalité, donc par exemple on ne fait pas de décompilation d'applications. On va revenir plus tard sur la méthode qu'on utilise.
Et pourquoi en fait?
Et pourquoi?
Contrairement à vous, nous ne sommes pas chercheurs, voilà. Donc nous n'avons pas le droit de décompiler. Tout simplement.
Parce qu'en fait, si on décompile, eh ben on porte atteinte à la propriété intellectuelle. Voilà. On a deux collaborations assez importantes, donc le Yale Privacy Lab, donc c'est le laboratoire de sécurité en fait, de l'université d'Yale, qui utilise nos outils pour les cours de sécurité informatique, et F-Droid, que vous connaissez peut-être, en fait, qui est un store du coup, d'applications qui sont open source et plus...
Qui sont souvent open source,
voilà.
Et en général, souvent beaucoup plus respectueuses de votre vie privée.
Voilà. Et donc, on fait tout en open source. Donc, tout notre code, tous nos outils, les slides de la conférence d'aujourd'hui, en fait, sont accessibles sur GitHub. Ouais. Voilà.
Il n'y a que pas grand-chose
qui est pas accessible.
La compta qui n'est pas accessible directement.
Voilà.
Mais on la publie.
Donc. Voilà, mais on la publie sur notre blog. Donc. Alors, donc notre but, le but c'est vraiment de sensibiliser le grand public aux questions du tracking, du pistage sur les smartphones. Donc même si on commence à... Enfin, on est même, reconnu, on va dire, dans des milieux assez techniques ou qui sont intéressés par ces sujets-là, nous, notre but, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de personnes et de rendre nos outils accessibles au plus grand nombre. Voilà. Et pour ça, du coup, on a développé plusieurs outils. Donc, on a développé une plateforme donc, qui s'appelle Exodus, que vous trouvez à l'adresse suivante, donc c'est report.exodus-privacy.eu.org. C'est un peu long, mais bon, c'est facile à retrouver. En fait, c'est une plateforme d'analyse des applications Android, donc qui vous dit le nombre de pisteurs que vous avez dessus, les autorisations, et, etc., etc. Et on va y revenir tout à l'heure. Et on va revenir aussi sur notre méthode d'analyse un petit peu plus tard. Voilà.
Alors, justement.
Voilà. Donc, voilà l'exemple d'un rapport.
Alors, celui-là est assez tordu, compliqué. Il est même très complet. Je vais me retourner pour mieux le voir aussi. Enfin, me mettre de trois quarts. C'est celui de Météo France. Météo France que tout le monde connaît. Et vous allez déjà être surpris de voir que Météo France embarque 20 pisteurs pour nous dire qu'il fait beau. Déjà en soi, c'est amusant. 12 permissions, toujours pour nous dire qu'il pleut. On est bien d'accord que jusque-là, ça va loin. Et puis on s'est dit, c'est l'une des premières applications qu'on a testées, et on a testé jusqu'au bout en faisant une analyse réseau. Toutes les applications n'ont pas la partie DNS queries, parce qu'on n'a pas le temps ni les moyens humains de faire des analyses réseau. C'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'à la main. C'est très difficilement automatisable. Donc, on le fait pour quelques-unes applications pour lesquelles on a des doutes. On s'est rendu compte, par exemple, que Météo France avait été tellement soucieux de notre bien-être météorologique qu'ils envoyaient notre géolocalisation toutes les minutes. Sérieusement. Même dans ma voiture à 130, je m'en fous, j'ai les essuie-glaces.
Même éteinte.
Même éteinte. Oui, même éteinte, oui.
Alors, ça l'envoie, du coup, notamment à des régies publicitaires.
Voilà, ça l'envoie à des régies publicitaires. Traverser la rue, il y a Célio qui vous fait moins de 20% sur les caleçons longs. Ah ben, en plus, il va pas faire beau.
Voilà.
Donc, voilà. On a été un peu surpris sur Météo France. Il faut reconnaître qu'on ne s'attendait pas à ce qu'un organisme comme ça nous fasse un enfant dans le dos à ce point-là.
Voilà. Et du coup, pour revenir sur donc ce rapport-là, alors on est d'accord que c'est très moche. Hein, donc on va essayer d'améliorer ça en 2019. Ça fait partie de nos projets. Donc, et en haut à gauche, vous avez donc le nombre de trackers ou de pisteurs. Donc c'est ça, ces petits bouts de code en fait qui collectent de la donnée. Les permissions, donc vous savez ce que c'est. Et ensuite, vous avez en dessous la liste des différents pisteurs. Et sur le site d'Exodus Privacy, du coup, quand vous cliquez sur les différents pisteurs, vous avez
une fiche
avec une description et puis du coup les applications qui embarquent ce pisteur-là, etc. Voilà.
On utilise une base de données relationnelle.
Voilà.
Alors les applications, les permissions qui sont sur ce côté-là au milieu sont qualifiées de dangereuses, normales ou pas. Et c'est Google qui nous fournit cette dangerosité. Donc on est pour rien, on est juste là dans les couleurs. Sinon, le fait que l'accès à la localisation soit dangereux, c'est Google lui-même qui dit que c'est dangereux.
Mmh. Ouais.
Mmh. On sent qu'ils ont... C'est pas les mêmes, ou alors ils sont pas branchés.
Mmh. Tu veux que je passe à une suivante ?
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un tracker ou un pisteur ? On essaie de rester français. Malgré les slides en anglais. C'est un morceau de logiciel qui va collecter des données sur vous et ou vos usages. Donc vous, personne physique, ou vos usages de vous dans votre smartphone. Ce que vous faites, est-ce que vous prenez le bus, est-ce que vous prenez le métro, est-ce que vous rentrez dans tel magasin plutôt que tel autre, est-ce que vous marchez à pied, est-ce que, etc., etc. Tout ce qu'on peut collecter sur vous pour les envoyer à des régies publicitaires comme Augury, Google Analytics, Timo et plein d'autres. Voilà le rapport, enfin la fiche d'un tracker, Flurry, qui est bien connu. Et on a quelques éléments. La façon dont on détecte sa présence. Alors pour les plus techniques d'entre vous, c'est un bête grep dans le code. Enfin, dans la décompression du code, on verra tout à l'heure la méthode utilisée exactement, et donc on recherche ce motif dans la signature des applications. C'est la première fois qu'on l'a trouvé. Son site web, ce qu'on sait de lui, à qui il appartient, quels sont les produits et les services qu'il fournit, et où est-ce qu'on le trouve, dans quelles applications. Vous voyez qu'on trouve Figaro, Le Progrès, France Culture. Beaucoup de radios, d'ailleurs, beaucoup de cricket 3D. Voilà. Oui. Quand on joue avec cricket 3D. Donc, la méthode de détection, qui est très importante, c'est une analyse statique. On va lister la liste des classes Java embarquées. On va, pour ça, utiliser donc le code signature, la signature code des méthodes, grâce à plusieurs outils. Je vais y arriver. J'ai Plekly, qui est un petit bout de Python qui va nous permettre d'aller chercher l'APK, donc l'application, sur le Google Store. Comme ça, on s'assure que c'est la même que celle qu'il y a sur votre smartphone. C'est pas quelque chose de modifié. Pour nous, c'est celle qu'on peut télécharger 3 secondes avant ou 3 secondes après. C'est la même, on en est sûr. Android Guard qui va nous permettre de récupérer les permissions, le code, la version du code et les certificats. Et enfin, DexDump qui est fourni par Google et qui fait la décompression, j'ai bien dit la décompression et pas la décompilation, qui va nous fournir la liste des classes Java de l'APK. Et alors ensuite, on prend notre liste de trackers et puis on cherche. Voilà. Si on trouve, on est sûr que le pisteur est embarqué. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il est utilisé. Ça veut dire que le code est présent. Pour savoir s'il est utilisé, il faut faire une analyse dynamique. Donc faire tourner l'application, faire les captures réseau, etc. etc. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de faux positif. On est sûr que le truc est embarqué, mais on ne peut pas certifier qu'il est utilisé. Cas d'école, nos amis de Quant, qui, lorsque l'on est sorti le 24 novembre, pas dernier, mais celui d'avant, se sont fait allumer dans les quarts d'heure qui suivaient. Oui, vous avez 3 pisteurs dans votre appli, alors que vous dites que vous préservez la vie privée. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient récupéré une vieille appli qui contenait des pisteurs qu'ils n'avaient pas vérifiés et qui se sont fait avoir comme ça. Donc, le code était là, pas actif, ils s'en servaient pas, mais voilà. Donc, ils ont fait le ménage et ils ont pu ensuite réussir à regagner un peu de confiance. Donc, voilà un schéma. On récupère l'APK, on le dézip, on le dédex avec... On obtient des dex dump, des dex files, qu'on dex dump, on obtient la liste des classes Java, la signature des trackers. S'il y a un match, tout de suite, on le sait, le tracker est embarqué. C'est simple, c'est clair, c'est net.
Voilà.
C'est scientifique.
Alors, moi, je ne suis pas issue d'une filière technique, donc j'ai l'habitude d'expliquer ce que vient d'expliquer Louis-IX, parce que je ne sais pas si dans la salle tout le monde a compris, normalement vu le public, oui, mais du coup, l'idée, c'est vraiment que, donc on ne décompile pas, donc on ne va pas voir vraiment le code, mais c'est comme si on prenait le sommaire d'un bouquin et qu'en fait, on a une liste définie de pisteurs, donc actuellement, on en a 152, et en fait, on compare entre les titres du sommaire et notre liste de pisteurs s'il y a des choses similaires. Si c'est similaire, ça veut dire que le pisteur, il est embarqué. Voilà.
Wow. Voilà un autre exemple. Donc, la jolie ligne de commande avec DexDump, DexDump, toutes les classes, le joli perle, il est beau, hein. On sort ce qu'il y a, on demande à n'avoir qu'une sortie à chaque fois, le fameux unique, et voilà ce qu'on reçoit comme Amazon, Device, Ads, User ID Parameters, Version, etc. Ça match avec la regex comme Amazon Device Ads. Donc, on est certain que le Amazon Ads est embarqué dans l'application en question. Alors, on n'a pas que la plateforme. Tu veux reprendre la main peut-être ?
Bon, je peux. En fait, on a d'autres outils. Donc, on a entre autres une application Android, qui est bien sûr exempte de pisteur.
Et testée par la plateforme.
Voilà, et testée par la plateforme. Donc, bon, bref. et en fait, qui est une application donc, que vous trouvez à la fois sur F-Droid et le Google Play Store. Et en fait, qui regarde quelles applications est installées sur votre téléphone. Et pas que, et en fait qui vous dit en face du nom de votre application combien il y a de pisteurs et quelles sont les autorisations et avec un lien vers le rapport. Et si je me souviens bien aussi, quand il n'y a pas de rapport, ça vous propose de créer un rapport, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait la plateforme, elle crée les rapports à partir des demandes. Des gens qui se disent « Ah bah tiens, telle application, j'ai envie de l'installer sur mon téléphone, mais je vais vérifier avant si elle a des pisteurs ou pas. Je regarde sur Exodus Privacy, ah, il n'y a pas de rapport, donc je peux soumettre la demande de rapport. » Et en fait, en quelques dizaines de secondes, l'analyse se fait. Donc du coup, c'est possible aussi via...
C'est ouvert au public.
Voilà, c'est ouvert au public.
Chacun peut tester son application préférée gratuite.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas les moyens de payer toutes les applications non plus.
Voilà, donc c'est application gratuite et sur le Google Play Store. Voilà. Et donc, du coup, bah, je vous encourage à installer l'application si vous ne connaissez pas.
Elle a changé de look récemment.
Ouais.
Non, on a c'est une... le nouveau look.
Ouais, ça, c'est le nouveau look. Ouais. On a.
Il y a un petit problème, enfin un problème. On ne sait pas d'où ça sort. Quand vous l'installez par F-Droid, il y a le Google Alert, comment il s'appelle ?
Ouais, Play Protect.
Google Play Protect qui dit « Attention, c'est une appli dangereuse. »
Voilà.
C'est pas fair play, les gars.
C'est vraiment pas sympa. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est un des membres de l'association qui est par ailleurs développeur Android qui développe cette application-là.
Donc, vous pouvez lui aussi l'aider.
Ouais.
Il a un Tipeee et...
Voilà. Enfin, un Tipeee, une page de soutien financier.
Voilà.
Vous savez pourquoi ça vous déclare dangereux?
Sans doute parce qu'on réclame explicitement la liste des applications qui sont installées sur le smartphone. Tout le monde le fait, mais on est les rares à dire « on le fait ». Et du coup, en lisant le manifeste, on s'en rend compte et ça doit être ça. On suppose que c'est ça. Non, on n'a pas de preuve.
Ouais. Mais ça fait pas très longtemps que le problème est déclaré, donc on est encore en train de chercher aussi.
Voilà.
Du coup, tu veux parler d'Exodify ?
Alors, Exodify qui a été développé par l'un des vôtres.
Ouais, enfin, géographiquement.
Géographiquement, oui. Qui est un incubateur à deux pas d'ici, qu'on a enfin montré à midi. Et qui est une extension pour Firefox et Chrome, qui vous permet, quand vous allez sur la page du Play Store, d'avoir un petit... Pas sur le slide suivant,
ouais.
Ce sera plus voilà. Parlant. Un petit bandeau en haut des icônes qui vous dit combien il y a de trackers dans l'application en question. Et si jamais il n'y en a pas, comme celle de Banque et Assurance de Carrefour, vous pouvez cliquer et soumettre l'application directement. Donc enregistrer notre base et savoir si vous allez ou pas installer l'application de Carrefour Banque. Et savoir si elle est curieuse ou pas. Elle l'est.
Voilà. Donc, nos premiers résultats. Et ben, donc, on existe depuis... Alors, le octobre 2017, c'est la date de création de l'association, déclaration aux préfectures. Et 24 novembre 2017, c'est du coup la première...
Release publique.
Voilà.
La sortie avec un article dans Le Monde, dans The Intercept.
Ouais.
Plus Next Impact et tous les autres qui ont suivi, c'était catastrophique.
Voilà, et du coup depuis, donc on a identifié 152 pisteurs, on a analysé, enfin la plateforme a analysé sur demande plus de 48 000 applications, ça a généré plus de 57 000 rapports. Pour info, on s'est amusé à regarder dans les applications soumises, il y a des applications dans des langues très variées, de l'hébreu, du coréen, du japonais et tout ça. Donc c'est vraiment un outil qui est utilisé par des gens tout autour du monde. Donc on a aidé des développeurs et des compagnies à nettoyer leurs applications, donc comme on parlait avec l'exemple de Quant, parce que quelque chose aussi que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en fait... Il y a des créateurs d'applications qui embarquent des pisteurs sans le savoir. En fait, qui pensent faire une application propre et en fait, elle n'est pas propre du tout parce qu'en fait, ils utilisent des bibliothèques de code déjà tout près. Et en fait, en utilisant ces bibliothèques de code, sans regarder de trop près ni la doc ni la bibliothèque, en fait, ils embarquent des pisteurs dedans. Voilà, donc on a fait aussi des analyses plus poussées, donc des analyses de réseau, donc d'applications, donc comme Météo France ou Baby Plus, sur laquelle on va revenir plus tard. On a été pas mal en rapport avec des journalistes à qui on a fourni des statistiques, parce que nous, notre but, voilà, c'est vraiment d'être un outil d'analyse, et après, en fait, les gens peuvent l'utiliser et décider en connaissance de cause ou le relayer quand ils sont journalistes. Donc on a créé une API, alors ça je te...
Voilà, ben, il y a plusieurs utilisations de l'API. Entre autres, il y a une application qui s'appelle Yalp, qui permet d'aller chercher sur le Google Store des applications sans avoir de compte Google, histoire de rester un tout petit peu anonyme. Et eux nous ont demandé une clé d'API pour intégrer dans le rapport de ce qu'ils reçoivent de Google, le nombre de pisteurs que nous, on a trouvé. Donc, ils font un lien et disent « Exodus a trouvé 23 trois quarts dans cette application que vous voulez absolument installer. » Donc, c'est à ça que sert la clé API, entre autres.
Voilà. Et du coup, on a aussi créé, dans le but de toucher le grand public, on a créé des vidéos. Donc, on en a fait trois. Donc, trois vidéos en français, mais avec des sous-titres dans plein de langues. En anglais, en italien, en néerlandais.
Oui.
Bientôt en russe. et du coup, c'est des vidéos vraiment très accessibles qui expliquent ce que c'est un pisteur, quel type de données ça peut collecter, voilà, des questions assez basiques.
Pour revenir sur l'API, si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit, c'est pas limité, on demande juste des clés d'API pour éviter les tentatives de corruption de la base, de savoir qui fait quoi, mais il n'y a aucune limitation. Vous n'êtes pas limité à 10 000 interrogations par heure, c'est open bar, c'est juste une demande. Voilà.
Voilà. Et du coup, nos vidéos sont sur une chaîne Peertube et une chaîne YouTube.
Voilà. Ah, quelques statistiques pour rigoler.
Voilà.
D'après vous, quel est le pisteur le plus souvent trouvé?
Il y a des noms, c'est vraiment très étonnant de les retrouver là.
Nos amis Google, c'est étonnant.
Ouais.
Attends.
Ouais.
Donc, Billyville. On a étonnamment Facebook derrière, puis après plein d'autres, Twitter, puis d'autres que vous ne connaissiez pas du tout, et nous non plus. Et il y en a plein d'autres. Je vous rassure, on n'a pas fini d'avoir des surprises. Il y en a qui ont essayé de changer leur fusil d'épaule, de changer de nom, mais on les retrouve. On ne nous la fait pas à nous.
Voilà.
Donc ça aussi, ça fait partie du site.
Voilà. Donc voici un exemple d'analyse réseau donc de l'application Baby Plus. Donc c'est une application de suivi de grossesse.
Ah oui.
Voilà.
Donc l'idée, c'est que la femme enceinte, dès qu'elle le sait, prend l'appli et commence à mettre tous ses résultats d'examen, comment elle se sent, tout ce qui arrive dans la vie d'une grossesse, mais également ce qu'elle fait avec son conjoint. Elles vont choisir le prénom, faire des recoupements. Tiens, on pense à Adeline, on pense à machin. Le grand-père s'appelle Mach. Et on se rend compte, finalement, que le fœtus a un compte Facebook. Voilà. C'est résumé, c'est simple. Le fœtus a un compte Facebook que vous n'avez pas créé. Donc, a priori, c'est une appli à ne pas utiliser, mais faites ce que vous voulez.
Et du coup, c'est une application qu'on peut utiliser une fois l'enfant né pour noter quand est-ce qu'on l'a nourri, machin, etc. Et donc ça, c'est typiquement le type de données qui sont envoyées donc, à graph.facebook.com là, qui est surligné en haut. Donc en fait, notamment, est-ce que l'enfant est allaité au sein? Non. Quel est le genre de l'enfant? Quel est son nom? Etc.
Son nom possible, selon le nom des grands-parents, parce que souvent on donne... C'est le deuxième, le premier avait tel nom. Normalement, ça devrait être Adrien.
Voilà.
Oh, C'est Gouré, c'est Adrien avec un H. Ils sont malins.
Ouais. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire en analyse réseau, donc qui, comme on le disait, demande et pas automatisé, donc demande vraiment plus de temps. Mais très intéressant. Donc on a eu une couverture presse assez importante, voire très importante, fait il y a, donc vous voyez, plus de 8000 articles qui mentionnent nos travaux, donc dans la presse francophone, anglophone, hispanophone. Voilà, donc et puis on a été couvert par du coup Le Monde, Numérama, Next Impact. Alors sur notre site, vous avez une rubrique presse. Alors on met pas tout, mais du coup on met les articles.
On n'a pas 8 terras pour ça.
Voilà, c'est ça. Non, et puis on met les articles où parce qu'il y a des articles où on est juste cité et d'autres articles qui parlent vraiment plus de notre travail. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Ça donne une bonne idée aussi de ce qu'on a pu faire aussi. Mais on a eu une couverture presse dès la sortie publique.
Assez phénoménale.
Oui, assez impressionnante. On a rencontré la CNIL
il y a un an.
Oui. Le 14 février 2018. Oh.
C'était romantique.
Ouais, c'était très beau.
On a amené des fleurs et tout, c'était formidable.
Ouais.
Non, c'était vraiment très intéressant. On a bien échangé. En fait, on a été invité par le... Comment il s'appelle ? Le LINC, voilà. Donc, qui est le laboratoire interne de la CNIL. Et on s'attendait à avoir les gens juste du laboratoire. Et finalement, il y a des gens du juridique qui sont venus, des gens des enquêtes, des gens de... Ils étaient 15 autour de nous... On les avait un peu à zéro, ça s'est très bien passé. On a eu des échanges très, très cordiaux, très intéressants. Et il y a eu même eu des petites suites amusantes après. On est passé à la télé ?
On est passé à la télé, voilà.
On est passé à la télé. Alors, malgré tous nos efforts, on n'a pas réussi à faire citer l'association. Il y a juste les autocollants sur... sur le portable, c'est tout ce qu'on a pu grappiller.
Voilà.
Donc on a été un tout petit peu mécontent parce que ça nous a quand même ça a pris la journée à la personne qui s'en est occupée, donc c'était pas super franc du collier, mais bon, il y a eu une petite vengeance par Godefroy de la CNIL. Ensuite il y a eu un reportage sur Alexa justement où il a laissé traîner 2-3 stickers qu'on a bien vu à l'image.
Oui.
Donc c'était une petite vengeance par rebond, c'était sympa de sa part.
Voilà. Et du coup, c'était une émission de télé qui parlait globalement de, justement de Facebook, etc. Et en fait, notre intervention, elle portait plus sur quand on utilise Waze, qu'est-ce qui part où ?
Voilà. Il n'y a pas que la voiture qui bouge.
Voilà. Alors.
Alors, pour communiquer, on a plein de choses.
Ouais.
On a des super
voilà, t-shirts. Alors on a des super t-shirts. Alors attention, moi c'est un t-shirt, attention unique.
Le seul qui a quelque chose dans le lot, parce que je me suis planté quand j'ai la commande.
Ouais.
On a des stickers. On a des flyers si vous voulez en parler autour de vous.
Ouais.
Et on a même une boîte à gants.
Voilà. Parce que du coup, bon, je le répète, on est bénévole, on fonctionne uniquement sur les dons. Donc du coup, si vous trouvez intéressant ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir, même si c'est 1 euro.
Un
euro plus un euro, en fait on a des gens qui font des dons mensuels de 1 euro, et ben en fait mine de rien au bout du compte
fait en 12 euros de l'année.
Voilà. Et du coup ça nous permet de faire pas mal de choses, par exemple quand on intervient dans des, alors aujourd'hui on est défrayé, mais c'est pas le cas de tous les lieux où on intervient, donc ça permet de payer les billets de train, ça permet, là on fait faire travailler quelqu'un sur l'amélioration de l'UX de notre site, donc on va pouvoir la rémunérer. Voilà, enfin, il y a plein de dépenses comme ça, donc ça nous aide beaucoup. Donc comme je disais, on a une chaîne YouTube, une chaîne Peertube, on a différents comptes de réseaux sociaux, donc Mastodon, Twitter, Facebook. Alors après, il y a des gens qui disent quoi, vous êtes sur Facebook? Oui, notre but c'est de toucher le grand public.
Et c'est là qu'il est.
Voilà. Et puis il y a des conférences comme aujourd'hui. Alors, notre futur. Il est beau.
Donc, comme on vous l'a dit plusieurs fois, on va refaire les rapports pour qu'ils soient plus lisibles, plus compréhensibles par le grand public. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu...
Voilà.
Faut, faut rentrer dedans. Hein. Voilà. On est d'accord, ça a été fait par des geeks pour des geeks qui comprennent les geeks.
Voilà. Donc, alors, on a déjà amélioré les choses, c'est-à-dire que on a traduit les rapports en français et on a traduit le site en français, alors qu'avant tout était en anglais. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de les rendre les rapports le plus accessibles possible et de pouvoir aussi s'appuyer sur des médiateurs, des médiatrices numériques, voilà, en bibliothèque ou ailleurs, pour qu'ils puissent utiliser nos outils aussi vers un grand public au sens large.
Voilà, faire d'autres vidéos, des podcasts pour expliquer ce qu'est le tracking sur le mobile. Bon. Continuer à être le plus éducatif possible, le plus simple possible pour ce truc qui n'est pas évident et qui, comme à chaque fois, c'est souvent « Oh, t'es parano, tu exagères ». Et puis non, on n'exagère malheureusement pas. C'est embêtant, mais c'est comme ça. On va continuer à animer la page Facebook malgré les critiques. On va continuer notre chaîne Peertube malgré le serveur qui roquette de temps en temps.
Voilà, c'est ça.
Et la chaîne YouTube malgré les critiques. On va continuer à traduire. On cherche activement des traductions
en allemand
et en espagnol, parce que ce sont des langues qui sont... Les Allemands sont très versés vers la privacy, donc très intéressés. Ils aimeraient bien avoir le site en allemand. Et l'espagnol est quand même la troisième ou quatrième langue parlée dans le monde. Donc c'est important aussi d'être lu en espagnol.
Voilà. Et puis, notre but, c'est aussi de pouvoir recruter des bénévoles. Donc, je précise, il n'y a pas de prérequis techniques. Alors, bien sûr, on a des besoins en termes de technique, que ce soit contribution au code, développement Android, etc. Mais il y a aussi, en termes de traduction, il suffit de voir nos billets de blog en français. Ils sont très bien écrits, nos billets de blog en anglais. Il n'y a pas trop de fautes, mais ça se voit que c'est des Français qui les ont écrits. En traduction, en communication, en outils pédagogiques, parce que pareil, les vidéos, faut les faire,
faut les
monter, faire la musique, etc. Donc c'est vraiment très, très ouvert. Et puis on est sympa en plus.
Il paraît. Ouais. Enfin, on n'a pas encore mangé d'enfant aujourd'hui.
Voilà. Non, c'est vrai qu'on est vraiment très ouvert aussi à des propositions et puis à des envies aussi.
Voilà.
Donc voilà, donc on l'a dit. Pour contribuer à Exodus Privacy, vous avez plusieurs possibilités. Donc ça peut être en nous soutenant financièrement, ça peut être en nous soutenant en nous donnant un peu de votre temps libre,
voilà.
Mais ça peut être aussi tout simplement en utilisant nos outils et en parlant de nous autour de vous, parce que on est une petite association mine de rien.
On l'est vu quand même.
Voilà,
on est vu de loin, mais
voilà.
On n'est pas assez connu dans le grand public. Voilà, c'est le problème.
C'est ça.
Donc en parler dans votre cercle pour élargir le. Enfin, jeter un caillou et avoir des ronds dans l'eau, tout simplement.
Exactement. C'est une très belle métaphore.
C'est
pour
poétique.
Terminer.
C'est...
Voilà.
Voilà.
Et donc, du coup, si vous avez des questions, on est là.
Voilà.
Par le passé, je parlais beaucoup de privacy. Là, ça va être plus sur un aspect neutralité des terminaux. Parce que maintenant, je travaille à l'ARCEP. Donc, l'ARCEP, c'est effectivement l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. On s'intéresse beaucoup à la neutralité d'une. La régule. Donc, juste pour définir rapidement, c'est quoi la neutralité du net? En gros, il y a la définition Wikipédia. C'est la neutralité du net, c'est ce qui permet de garantir l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet par les FAI. Et ça interdit toute discrimination positive ou négative à l'égard de sources ou destinations du trafic. Une définition plus simple, qui résume bien le sujet, c'est que tous les paquets naissent et demeurent libres et égaux en droit sur Internet. Ça résume bien l'idée. Et pour poser un peu plus le sujet, je vous invite à regarder les vidéos de John Oliver qui datent de quelques années maintenant. Il avait fait deux sujets sur la neutralité du net au moment où il y avait les débats avec la FCC. Et il explique que c'est plus que juste des problèmes de gestion de la vitesse des flux sur Internet. C'est le principe que les fournisseurs d'accès à Internet ne devraient pas être en capacité de recourir à des pratiques qui limitent ou manipulent les choix sur Internet, les choix qu'on a sur Internet. Donc ça a un aspect sur la liberté de choix de l'utilisateur, garantir que l'utilisateur est toujours libre de ses choix et qu'il n'est pas influencé de façon plus ou moins explicite. Et ça assure aussi une compétition à armes égales entre les gros acteurs et les petits acteurs sur Internet. Est-ce que, vu que c'est un sujet un peu différent, est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Donc en Europe, on a de la chance, on a une garantie pour la neutralité du net de par le règlement Internet ouvert qui garantit ça dans toute l'Europe, qui fait que les autorités de régulation des télécoms, l'ARCEP en France, sont en charge de vérifier le bon respect de la neutralité du net. Donc c'est un règlement qui est très bien et qui est très descriptif. Le seul problème, c'est qu'il vise une partie, en fait, il vise que la partie FAI. Et quand on regarde comment est-ce qu'aujourd'hui on accède à Internet, on se rend compte qu'il y a un maillon, qu'il y a plein de maillons, mais il y a un maillon essentiel qu'on utilise pour accéder au net, c'est le terminal de l'utilisateur, en général de plus en plus le smartphone, mais pas que. Et que le périmètre du règlement Internet ouvert, il vise la partie FAI, mais il ne vise pas du tout la partie smartphone. Donc on a un principe qui est génial, qui est bien respecté sur la partie réseau, mais on peut se rendre compte que sur la partie smartphone, qui est le maillon un peu essentiel, c'est pas toujours respecté et que ça peut avoir des influences, ça peut nuire à l'efficacité du règlement dans son ensemble. Donc l'ARCEP, s'intéressant à ce sujet et voulant voir si effectivement les terminaux étaient limités l'ouverture d'Internet, a engagé en 2017, donc c'était avant que je rejoigne l'ARCEP, un travail sur l'ouverture des terminaux pour voir est-ce que les terminaux permettent de bénéficier de tous les services qu'il y a sur Internet ou pas. A rencontré plein d'acteurs, organisé des ateliers et même des consultations publiques pour avoir des avis sur le sujet. On s'est rendu compte qu'il y a des limites imposées par les terminaux sur les contenus auxquels on peut accéder sur Internet. Elles ne sont pas toutes négatives, mais il y en a qui sont positives, d'autres qui sont négatives. On les a catégorisées en quatre catégories. Donc, la première type de limite, c'est les limites qui sont liées à la nature du terminal. Quand vous avez une montre connectée, vous n'allez pas... Si elle est connectée à Internet, potentiellement, vous pourrez accéder à tous les services qu'il y a sur Internet ou sur le web. De par l'interface, vous ne pouvez pas accéder à trop d'informations, vous ne pouvez pas saisir trop d'informations, donc vous allez être assez limité. Pour avoir une expérience utilisateur positive, le design de la montre va faire en sorte que vous ayez accès à quelques services uniquement. Là, ce n'est pas pour restreindre l'utilisateur, c'est vraiment juste parce que l'interface de la montre ne permet pas de faire beaucoup plus que ça. De même, une console de jeux vidéo qui est connectée, effectivement, elle a accès à Internet, mais elle n'a pas accès à l'ensemble des services qui sont disponibles sur Internet. Vous êtes assez restreint sur les services auxquels vous pouvez accéder. Il y a des évolutions qui sont liées aux logiciels qui sont sur les terminaux. Donc là, on parle plus déjà des smartphones. Par exemple, il y a certaines applications qui sont disponibles que sur des versions d'iOS bien précises. Quand vous faites une mise à jour d'Android ou d'iOS, certaines applications ne sont plus compatibles avec les API ou ne sont pas compatibles avec certains composants ou certaines fonctionnalités qui ne sont plus sur le smartphone. Donc à ce moment-là, elles peuvent plus être exécutées sur le téléphone. Toujours sur la partie smartphone, il y a les politiques éditoriales des terminaux et des magasins d'applications. Donc ça, on entend souvent parler d'applications qui étaient sur le Play Store ou sur l'App Store et qui ont été rejetées parce qu'elles ne correspondaient pas à la politique éditoriale d'Apple ou de Google. Des fois, ça peut être pour des motifs tout à fait légitimes. Il y a des fois où c'est un peu plus ambigu. Au moment où on faisait ces travaux sur les terminaux, il y avait une autre équipe à l'ARCEP qui avait développé une application avec la Northeastern University pour détecter justement les infractions à la neutralité du net. Et Apple avait refusé de mettre cette application sur l'App Store en jugeant que c'était une copie d'une autre application, alors que qu'elle n'apportait pas de nouvelles fonctionnalités, alors que c'était vraiment quelque chose d'innovant en fait. Donc après avoir dialogué avec eux, ils ont accepté de la mettre sur l'App Store. Mais voilà, on se rend compte que des fois, les applications sont refusées pour des raisons un peu arbitraires et qu'il est nécessaire de discuter avec eux. Il n'y a pas longtemps, il y a eu toutes les applications de gestion du temps. Celles qui vous disent, voilà, vous passez tant de temps sur telle application. Jusqu'à présent, Apple et Google, comme ils ne le faisaient pas de façon native sur l'operating system, il y avait plein d'applications qui proposaient de le faire. Là, depuis que Apple fournit ce type de service directement sur iOS, il y a certaines applications où on leur a dit, c'est plus vraiment, ça duplique une fonction de l'OS. Le motif qui avait été invoqué, c'était le fait qu'ils accédaient à la géoloc tout le temps, justement, mais parce qu'ils voulaient savoir si la personne était... Enfin, ils le faisaient de façon large, granularement. En fait, ils voulaient juste savoir si la personne était au domicile ou chez elle, en fait, quand elle utilisait une application. Et enfin, c'est la partie qui nous intéresse le plus, c'est les limites qui sont liées aux limites, aux concurrences entre les différents systèmes. Le fait que l'OS, généralement, il est géré par une société et que cette société-là a aussi des intérêts financiers. Donc, c'est ça qui peut l'inciter à mettre certaines limites sur son système. Alors, rapidement, pour expliquer le marché des smartphones, alors, c'est un rapide rappel, hein, mais il se découpe essentiellement entre deux acteurs au niveau des OS. On a d'une part iOS qui est disponible que sur les iPhones, et d'autre part Android qui est disponible sur plusieurs smartphones. Donc Google propose une version ouverte d'Android, mais qui est assez peu utilisée parce que au final les gens veulent quand même utiliser les services de Google, et donc la version avec les API propriétaires, c'est celle qui est la plus vendue en Europe. Au niveau des terminaux, Apple vend ses terminaux directement, alors que Google fabrique certains terminaux. Il fabrique vraiment très peu de terminaux, juste les pixels, et nous, des partenariats avec des constructeurs tiers qui vont installer leurs terminaux Android et éventuellement customisés. Pour l'installation des applications, ils passent par des magasins, donc iOS a l'App Store, Google a le Play Store. Ça permet d'externaliser la création de contenu et d'applications sur le terminal. Ça permet aussi de mettre en avant certaines fonctionnalités du terminal. Et puis ça permet aussi de se rémunérer. Apple, comme Google, récupère 30% des ventes sur les applications qui sont vendues, soit lorsqu'elles sont vendues directement sur l'App Store, soit via les in-app purchase éventuellement. Et sur les abonnements, c'est 15%. Par exemple, on voit actuellement beaucoup Netflix et Spotify essayer de passer par... ne pas passer directement par le mécanisme d'abonnement des magasins d'applications, mais de plutôt rediriger les utilisateurs vers le web lorsqu'ils souhaitent s'abonner, ça permet à ces sociétés de ne pas avoir à reverser 15% à Apple et à Google par la suite. Alors, effectivement, c'est un très bon exemple. En fait, Fortnite est sorti d'abord sur iOS. Je crois quand ils sont sortis, au début, ils faisaient 2 millions... Non, sur iOS, en fait, c'est vraiment intégré. Sur iOS, il n'y a pas le choix. Si on veut mettre une application sur l'iPhone, on est obligé de passer... à part pour les téléphones jailbreakés, mais c'est vraiment infinitésimal comme... proportion d'utilisateurs. Si on veut déployer une application sur iOS, il faut vraiment passer par l'App Store. Fortnite, ils ont vraiment, Epic a vraiment cartonné. Epic, c'est l'éditeur de Fortnite. Ils ont fait 2 millions, je crois, c'est ce qui est estimé, 2 millions par jour. Ce qui veut dire qu'ils reversent à peu près $600,000 chaque jour à Apple sur ces 2 millions. Donc, effectivement, sur Android, ils ont la possibilité de contourner et ils l'ont fait. Et ils vont d'ailleurs proposer leur propre magasin d'applications par la suite. Mais je vais revenir, mais effectivement, sur Android, il y a la possibilité de contourner le magasin d'application. Et la monétisation des services, ben, d'une part, on a Apple qui vend ses services et qui monétise directement par des systèmes d'abonnement. De l'autre côté, on a Google qui fait énormément de ses revenus. Sont générés essentiellement par la publicité sur ces plateformes, donc qui a intérêt à ce que ces services soient utilisés pour pouvoir générer plus de revenus.
Il ne faut pas oublier qu'en plus, pour développer sur iOS, c'est 80 euros par an.
C'est vrai. C'est vrai. Les deux écosystèmes ont des verrous communs. Il est impossible de supprimer certaines applications qui sont préinstallées. Alors sur iOS, je n'arrive pas vraiment à quantifier. Sur Android, j'ai regardé sur mon téléphone. Quand on associe toutes les applications qui sont préinstallées qu'on ne peut pas supprimer, ça fait 1,2 giga de stockage. Sachant que c'est que les applications Google. Samsung, ils installent Facebook. Certains constructeurs de terminaux installent leurs propres applications. Donc on perd de l'espace de stockage. On perd aussi de l'espace sur l'écran d'accueil. Il y a certaines. Enfin, moi, je sais que j'ai la barre Google que je ne peux pas enlever quoi que je fasse sur mon téléphone. Certaines applications, et notamment celles des constructeurs, ont des accès privilégiés à certaines API, notamment les API de stockage. Pour tout ce qui est stockage dans le cloud, si vous voulez stocker des informations dans le cloud, et que ce soit intégré facilement dans des applications, il faut passer par iCloud sur iOS et plutôt par Google Drive sur Android. Il est difficile ou impossible, dans certains cas, d'ajouter des magasins tiers. Donc, difficile sur Android pour les utilisateurs, c'est possible. Et c'est impossible sur iOS, effectivement. Et il est impossible de modifier le classement des applications. Ça, c'est une autre limite qu'on avait identifiée. Donc, un problème d'Apple, enfin, pas un problème, mais dans la partie choix et liberté sur Internet, c'est que des fois, ils sont peut-être un peu trop paternalistes. Enfin, on peut les trouver un peu trop paternalistes pour certains utilisateurs. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça protège bien la vie privée, qu'ils ont un modèle bien intégré. Donc, c'est un petit peu... Il y a un équilibrage qui est dur à trouver en termes de sécurité et vie privée. C'est vrai que ça apporte quand même certaines garanties. C'est très simple et c'est très fluide, mais parfois il y a des décisions qui peuvent paraître un peu arbitraires. Donc, je mentionnais tout à l'heure sur le refus d'autoriser certaines applications sur le Play Store. Il y a une mise en avant de la privacy qui parfois peut avoir certains impacts négatifs sur le navigateur. Il coupe beaucoup d'API en fait, dès qu'il se rend compte que ça peut être utilisé pour du fingerprinting. Là, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est hier, sur iOS 12, ils ont coupé l'API sur un capteur de mouvement qui pouvait être utilisé pour le WebVR, mais qui pouvait être aussi utilisé pour la réalité virtuelle directement dans le navigateur, mais qui pouvait aussi être utilisé pour faire du fingerprinting du navigateur. Parfois, ils mettent un petit peu de temps aussi à adapter certains standards, notamment du web, pour les Progressive Web Apps, qui sont des applications qui proviennent du web, ils sont un petit peu en retard par rapport à Android. Et ils ont un écosystème, alors, « bio » entre guillemets, c'est que, en général, quand vous avez un terminal iOS et vous en prenez un deuxième à côté, vous êtes vraiment fermé dans un écosystème en fait. Ils ne sont pas trop compatibles avec des terminaux d'autres marques. Et donc c'est assez dur, une fois que vous voulez changer d'écosystème, de le faire. Et bien qu'ils soient quand même assez à la pointe sur le respect du règlement et pas mal de dispositions du règlement général sur la protection des données, il y a quand même sur la partie accès aux données ou portabilité où ce n'est pas forcément hyper fluide. Sur Android, ce qui était mentionné tout à l'heure, effectivement, alors bon, il y a le cas de la DG Comp sur le fait que il y a certaines restrictions sur qu'est-ce qui peut être installé par défaut. Ça, j'y reviendrai plus tard. Une des difficultés sur Android, c'est bien qu'on puisse installer les magasins d'applications tiers. Il y a l'antivirus d'Android qui s'appelle Play Protect, qui est activé par défaut. Et c'était cité tout à l'heure, en fait, sur Exodus Privacy, ben, quand vous l'installez depuis Play Store, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de warning parce que c'est bien validé par le Play Store. Quand vous l'installez depuis F-Droid, par contre, ce n'est pas pareil. Là, l'application, a priori, elle est vue comme étant potentiellement malicieuse. Ou en tout cas, il y a des warnings qui sont faits par Play Protect. Et d'ailleurs, il y a eu un autre cas. Il y a un magasin d'application qui s'appelle Aptoid, qui a été bloqué, ça fait un an maintenant, sur de nombreux smartphones. Pareil, c'était Play Protect qui disait attention, ce magasin n'est pas fiable. Alors que, visiblement, le nombre d'applications qu'il fournissait était, fiable, était plus élevé en ratio que le Play Store. Alors, c'était sur. Ils avaient fait regarder une étude en fait de quels étaient les trackers et quels étaient les malwares qui étaient dans l'application. C'est un papier qui était paru sur le sujet. Voilà, Google a aussi, fait aussi des mesures sur qu'est-ce qui, sur la mesure de la fiabilité des applications qui sont sur le Play Store. Bon, ils en enlèvent aussi, notamment il y a eu pas mal d'applications qui faisaient du scam publicitaire, qui ont été enlevées ces derniers temps. Donc c'est assez dur quand même pour un magasin d'applications de contourner, pour une application de ne pas être vendue par le Play Store, même si c'est possible. Et effectivement, Fortnite a réussi le tour de force de faire ça, et ils vont proposer leur propre magasin d'applications sous peu, probablement en cassant des prix d'ailleurs. Donc ça va être très intéressant de voir la compétition entre ces deux magasins. Ça c'est une limite qu'on a découvert assez récemment en fait. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais parfois sur les téléphones Android, il y a certaines notifications ou certaines applications qui sont tuées quand elles sont mises en arrière-plan de façon un peu arbitraire. Alors ça, c'est pas lié à Android tel quel, c'est pas l'OS fourni par Google qui fait ça. C'est les fabricants de terminaux en fait qui customisent la gestion de la batterie pour économiser de la batterie. Ce qu'ils font, c'est que ils vont avoir une gestion intelligente de la batterie qui consiste à tuer certaines applications qui sont mises en arrière-plan. Ça, c'est alors ce qu'il y a, c'est que c'est assez arbitraire. On sait pas trop. Ils communiquent pas trop là-dessus. C'est pas sûr que ça respecte vraiment l'aspect Android. Et certaines applications, des fois, elles passent au travers et d'autres pas. On sait pas pourquoi. Et donc c'est assez dur à observer. On s'est rendu compte du problème parce que VLC l'avait notifié cet été. En fait. Sur les téléphones Huawei, quand l'application VLC était mise en background, elle était stoppée net. Ce qui fait que les utilisateurs qui voulaient écouter quelque chose, un flux radio ou un flux audio sur leur application et qui la mettaient en background, ça marchait plus. Ils ont commencé à se plaindre de façon assez importante sur le Play Store et à mettre des mauvaises notes. Et c'est comme ça que VLC s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et il y a pas mal d'autres applications qui le font aussi, qui sont tuées comme ça aussi. Il y a dans certains cas Snapchat qui se fait tuer, donc du coup j'ai un collègue qui reçoit jamais ses notifications Snapchat parce que ça se fait tuer dès que l'application n'est pas au premier plan. Il y a des personnes qui mentionnent des cas d'alarme qui ont été désactivés, donc vous programmez un minuteur, vous mettez l'alarme au second plan en fait, et le smartphone décide de la tuer. Des sessions SSH qui sont coupées. Oui, mais le problème, c'est que c'est complètement arbitraire, c'est qu'on voit pas du tout comment ça fonctionne. Mais voilà, dans l'idée, par contre, effectivement, l'application ne trace plus après, il y a pas de problème. Et donc, en fait, il y a plein d'autres exemples. On les voit essentiellement sur Reddit, c'est ma principale source d'information sur le sujet. Et il y a Don't Kill My App, qui est un site qui justement répertorie les différentes pratiques par les différents constructeurs de smartphones. Donc là, vous pouvez voir qu'ils mettent des notes. Donc, plus on a de pouces vers le bas, forcément, au moins, c'est bon. Et qu'ils expliquent aussi pour chaque marque comment faire pour désactiver ces optimisations. Donc, je vous invite à regarder. C'est vrai qu'il y a pas mal de modèles qui sont concernés. Alors, un petit tour de l'actualité réglementaire. Cet été, au mois de juillet, il y a eu le cas Android devant la commission, devant la DGCOMP. Alors, la DGCOMP avait trois préoccupations. D'une part, le fait que Google interdit de faire des forks d'Android dès lors qu'on utilise les Google Mobile Services, c'est-à-dire que dès lors qu'un constructeur de smartphone va utiliser Gmail, le Play Store et les autres applications, elle va les préinstaller sur ses smartphones, il est interdit de faire des forks d'Android sur le même marché. Il y a aussi le fait que l'octroi de licence, donc l'autorisation d'utiliser, de préinstaller le Play Store sur un téléphone Android, était liée au fait de préinstaller aussi Google Store et Chrome. Comme le Play Store, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'en pratique, quelqu'un qui voulait vendre un constructeur qui voulait vendre un téléphone Android en Europe était obligé d'installer Search et Chrome pour que ça puisse fonctionner. Et il y avait aussi certaines incitations financières pour que ce soit pour que Google Search soit le seul moteur de recherche utilisé sur ces smartphones-là. Donc, il y a eu la décision de la DGCOMP au mois de juillet, qui a sanctionné Google à hauteur de 4 milliards. Donc là, les remèdes proposés par Google, donc ce que Google fait pour se mettre en conformité, c'est de ne plus interdire les forks. Les forks, ce sont des versions, j'aurais peut-être dû expliquer, ce sont des versions un peu modifiées de l'operating system Android, en fait. Comme c'est un operating system qui est open source, on peut le modifier et créer sa propre version, si on en a besoin, pour le customiser. Mais voilà, ça, a priori, c'était interdit, il y a très peu qui pouvaient le faire. Et normalement, depuis le 1er février, on peut trouver des téléphones qui fonctionnent sur Android, qui ont le Play Store, et qui n'ont pas forcément Chrome et Search. C'est-à-dire que maintenant, les constructeurs de terminaux peuvent séparer le Play Store, ils peuvent installer le Play Store d'un côté, et ne pas avoir Chrome et Search. Par contre, il faut qu'ils payent $40 par équipement en plus, enfin jusqu'à $40 par équipement en plus à Google. Donc, c'est le prix de la licence Android, en fait. Ils peuvent continuer d'installer Chrome et Search, et à ce moment-là, ils ont un rabais. C'est pas clair que... il n'est pas évident que beaucoup de constructeurs de terminaux vont préférer payer la licence plutôt que de... Mais bon, je sais pas, là, il devrait bientôt y avoir les principaux smartphones, notamment ceux de Samsung qui devraient apparaître sur le marché. On devrait voir quel a été l'effet de cette décision et comment est-ce qu'ils ont intégré ou pas des applications concurrentes. Il y a aussi un cas qui concerne Apple qui est alors de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Apple qui il n'y a pas longtemps est passé devant la Cour suprême pour justement le fait que les 30% qu'ils prennent pour le Play Store, ça paraît un peu trop élevé. Donc il y a une association de consommateurs qui s'est tournée contre eux et qui a priori, s'ils arrivent à obtenir gain de cause, ça pourrait forcer Apple à autoriser des magasins tiers d'applications sur iOS. La question que doit trancher la Cour suprême, c'est de savoir est-ce que Apple est un intermédiaire entre le développeur et le consommateur, ou est-ce que c'est un agent en fait et que la relation elle est directement entre le développeur et le consommateur. Forcément, les contrats d'Apple ont été designés pour le mode qui est en bas, qui est le mode dans lequel Apple ne fixe pas les prix et c'est le développeur qui fixe les prix. Donc voilà. Et donc une des questions c'est de savoir est-ce que Apple, c'est à cause d'Apple que les applications sont à un certain prix ou est-ce que c'est à cause du développeur. En Europe, on a le règlement Platform to Business. Donc c'est un règlement qui a été proposé par la Commission. Au mois d'avril 2018, il y a eu pas mal d'amendements qui ont été proposés. Donc le règlement, il vise à promouvoir la transparence et l'équité dans les relations entre, d'un côté, les business et les services d'intermédiation en ligne. Les services d'intermédiation en ligne, c'est assez large. Ça peut être soit les plateformes, les moteurs de recherche, ça concerne aussi les magasins d'applications. Donc, quand on voit les problèmes qu'il y a dans certains cas sur le manque de transparence dans les magasins d'applications ou les assistants vocaux. Malgré le titre, en fait, du règlement, ça impose surtout de la transparence. Mais il y a assez peu de mesures pour proposer, pour vraiment faire de l'équité. Il y avait des amendements qui avaient été proposés pour élargir le scope du règlement aux operating systems. Et donc, un outil technique en fait, qui pourrait être utilisé aussi pour ouvrir un petit peu l'écosystème des smartphones, c'est les Progressive Web Apps. Alors, c'est vraiment basé sur le web. Pendant longtemps qu'on allait sur le web avec un smartphone, on avait ce genre de panneau qui nous demandait d'installer une application à la place. Alors, on voit un petit peu moins maintenant, parce qu'effectivement, ça agaçait pas mal les utilisateurs. Mais c'était quelque chose qui était assez commun. Mais maintenant, ce qu'on peut avoir, en fait, quand on va sur une page web avec un navigateur mobile, que ce soit Firefox à gauche ou Chrome, là, on voit, quand on va sur le site de France Info, on a une petite maison avec un plus à l'intérieur, qui veut dire qu'on peut ajouter, c'est un peu comme un bookmark ou comme un raccourci, qu'on peut ajouter sur l'écran d'accueil du téléphone. Et ça va se comporter que vraiment comme une application par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la barre d'URL, il y aura des notifications. C'est assez utile. C'est assez proche du fonctionnement d'une application normale. Sur Firefox, faut juste appuyer sur le plus. Sur Chrome, alors sur Chrome, ça dépend des versions, mais normalement, il y a une petite pop-up en bas qui dit voilà, si vous voulez l'ajouter à l'écran d'accueil, cliquez là-dessus. Et après, ça va vraiment se lancer. Enfin, il y aura même le bouton sur l'écran et ça fonctionnera comme une application. Moi, sur les exemples Twitter Lite, c'est ce que j'utilise à la place de Twitter maintenant et c'est ça ressemble vraiment. Ça reprend les principales fonctionnalités et c'est le design est vraiment le même. Donc, ils ont rajouté un manifeste et plein d'API en fait pour que ça puisse continuer à s'exécuter en background, pour qu'il puisse y avoir des notifications. Donc ils ont ils ont rajouté certaines API vers les capteurs au niveau du web. Voilà, donc si vous voulez faire des tests et voir quelles sont les applications disponibles, vous pouvez soit passer par le web, soit aller sur le site AppScope en fait. Qui est une sorte de magasin d'applications de Progressive Web Apps. Donc, ça a pas mal d'avantages. C'est installable depuis le web, en fait. Donc, il n'y a pas de politique éditoriale. Hein. On va sur une page web, on peut récupérer de la PWA. C'est maintenant, depuis peu, installable depuis Play Store. Quelques-unes commencent à être listées depuis Play Store. C'est beaucoup moins gourmand en ressources, donc que ce soit en ressources réseau ou même en ressources en termes d'énergie. C'est par défaut utilisé dans Android Go, qui est la version light d'Android. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est que ça dispose au maximum des permissions du navigateur, ce qui est bien quand on a peur que l'application ait accès à trop de permissions, ce qui est moins bien quand justement on voudrait qu'elle ait accès à plus de permissions. Et parfois il peut y avoir des temps de standardisation qui sont un peu plus longs, parce que ça passe par tout ce qui est web. W3C. C'est pas très bien supporté sur iOS. Sur Android, c'est assez bien supporté, mais particulièrement par Chrome. Il y a quelques API qui sont pas encore très bien intégrés dans les autres navigateurs. Et c'est assez compliqué d'accès pour les utilisateurs d'iOS, parce que justement, c'est pas listé sur le Play Store. Rapidement, sur les assistants vocaux, on a les mêmes problèmes de neutralité et effectivement on a un seul résultat généralement qui nous est donné par l'enceinte et que ce soit par une enceinte vocale ou par l'assistant vocal qui est sur le smartphone, donc c'est un peu compliqué de voir quand il y a des biais qui sont intégrés par l'assistant vocal. Un petit exemple de problème qu'il y avait eu, c'était l'année dernière, entre YouTube et Amazon, il y avait une mini bataille en fait. Amazon ne listait pas certains terminaux Google et en représailles, YouTube était bloqué sur certains terminaux Amazon. Donc par exemple, quand vous alliez sur Amazon et vous demandiez à Alexa « je voudrais acheter un Chromecast », il vous proposait tous les équivalents de produits qui étaient chez Amazon, mais il ne vous proposait pas le Chromecast. Bon, alors ça a un peu changé maintenant, mais voilà, c'était l'année dernière, c'est comme ça. Les pistes qu'on proposait par l'ARCEP, du coup, sur la base de ces constats-là, c'était effectivement d'étendre que le règlement Internet ouvert pour que ça puisse inclure les terminaux. C'était parce qu'on voyait que c'était un champ, un, Manon qui était vraiment essentiel, c'était de réguler par la data, donc ça c'est quelque chose qu'on développe à l'ARCEP, en fait, d'essayer de collecter un maximum d'informations, de la diffuser par la suite pour informer les consommateurs sur quand ils font des choix. Renforcer la fluidité, c'était essayer de avoir plus de portabilité d'un écosystème à un autre, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément très fluide de passer d'Apple à Android et vice-versa. Lever certaines restrictions imposées par les acteurs clés des terminaux, c'était notamment tout ce qui visait la politique éditoriale sur les magasins d'applications, et en essayant d'intervenir rapidement. On a le rapport de l'ARCEP sur ce sujet-là, c'était il y a un an maintenant. Il est sur le site de l'ARCEP, soit vous arrivez à mémoriser l'URL, soit vous allez sur le site de l'ARCEP et vous tapez un terminal ouvert. On a fait quelques fiches pratiques pour expliquer comment migrer ses données d'un smartphone à un autre ou comment personnaliser son smartphone. On explique notamment comment utiliser les Progressive Web Apps. Et puis on continue de s'informer sur le sujet, donc si vous avez des questions ou si vous avez identifié des problèmes ou des solutions auxquelles on n'a pas encore pensé, n'hésitez pas à nous signaler. Voilà. Et on a donc une mailing list, mais comme elle est un peu publique, terminaux@arcep.fr, on reçoit pas mal de spam dessus, mais on essaie de faire attention. Donc si vous voulez nous envoyer des suggestions, n'hésitez pas.
Agir. Décrypter. S'imaginer. Transplaner.